Vous écoutez
RMC. RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec les drôles dames, comme tous les lundis soirs, Julien Laurent, Johan Crochet, Fred Hamel et Paulo Breitner. Je voulais qu'on continue et termine sur le duel entre City et Arsenal. Il y a beaucoup de thèmes à évoquer. Parlons notamment, mon cher Julien, de deux individualités. Erling Haaland notamment. Avec des guillemets, hein, moins flamboyant cette saison, 2 buts, 5 derniers matchs de PL. Bon, Roy Keane, hein, je sais pas si la déclate, tu l'as vu passer, j'imagine que oui, rien ne t'échappe, mon cher
oui,
Julien. Toujours aussi virulent. Son niveau de jeu, quand il parle d'Haaland, est tellement médiocre, et pas qu'aujourd'hui, il joue presque comme un joueur de League 2, 4e division anglaise. C'est comme ça que je le vois. Voilà, simplement.
Alors, c'est pas son niveau de jeu, il a dit, en dehors des buts et de la finition.
D'accord.
Il parlait de tout ce qu'il a dans le jeu. Par exemple, le jeu de haut but, les remises, participer au jeu de son équipe, la construction, tout ça. Alors, l'historique déjà entre Roy Keane et la famille Haaland remonte bien sûr à très longtemps. On en avait déjà parlé dans l'émission, hein, mais c'est bien sûr entre quand Alfie Haaland, le père d'Erling, était joueur, notamment à Manchester City, que lui et Roy Keane ont eu surtout sur 2 matchs, un premier tag du papa d'Erling sur Roy Keane qui a occasionné une blessure, et ensuite la revanche, bien sûr, enfin la vengeance, plus que la revanche, la vengeance de Roy Keane a terminé la carrière d'Alfie Haaland avec une grave blessure sur un tag de Roy Keane. Donc je pense qu'il y avait ça aussi dans l'esprit de... Je pense que Roy Keane n'aime pas trop la famille Haaland et ouais, c'est réciproque aussi.
23 ans après, il a encore la critique.
Ça semble assez
clair. Non, mais de toute façon, Roy Keane, c'est comme ça. Hein, c'est comme ça. Il est très, très gentil dans la vie de tous les jours. On a joué au foot ensemble au Qatar, à la Coupe du Monde. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui est très gentil, mais qui fonctionne comme ça. Et qui surtout aime beaucoup les punchlines à la télévision. C'est aussi pour ça qu'il est devenu consultant. Ça en fait partie. Est-ce qu'il a en partie raison? Sûrement. C'est vrai qu'hier, quand Erling Haaland est muselé comme ça par Gabriel et Saliba, il sert à rien finalement dans cette équipe-là. Il y a un moment même assez embarrassant pour lui en fin de match où il rate complètement sur un corner de De Bruyne, une déviation de Gvardiol, et il rate le ballon complètement qui lui passe entre les jambes alors qu'il est dans les 6 mètres. Je sais pas si vous voulez, je pense qu'il voulait remettre vers Ruben Dias plutôt que frapper, mais bref, il rate complètement le ballon. Donc c'est vrai que cette saison, par moment, même s'il a marqué 18 buts en championnat, sur son expected goal, c'est 21, donc c'est pas non plus catastrophique. Mais c'est vrai qu'il a l'air un petit peu moins efficace, il a moins tranchant, on va dire, dans la surface, peut-être que par le passé, la saison dernière, je veux dire. Après, je sais pas si c'est vraiment mérité de parler comme ça dans un match où De Bruyne n'a pas été bon, Foden a été encore moins bon, Bernardo Silva non plus, Bukayo Saka non plus. Donc voilà, les joueurs offensifs, pour les raisons dont on a expliqué tout à l'heure, ont souffert dans cette rencontre qui a été contrôlé tactiquement, on l'a dit, et pas vraiment spectaculaire. Donc voilà, après, je veux plus m'attarder sur la performance, notamment d'un Saliba qui, pour moi, a été exceptionnel, encore une fois, qui a été choisi homme du match par Gary Neville à la télévision anglaise, que sur Erling Haaland, qui, oui, effectivement, est peut-être un petit peu moins bon, il est revenu de blessure il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, et sur un match pareil, c'est difficile à juger.
Bon, Saliba, tu l'as dit, magistral, hein, grand artisan de ce match nul. C'est fou d'ailleurs le décalage entre l'appréciation d'un Deschamps en équipe de France, c'est pas le même vécu, pas la même confiance, et l'appréciation de ses prestations en Angleterre. Johan, tu voulais réagir?
Juste 10 secondes, parce que ça m'a fait penser à quelque chose. Peut-être que ce sera pour une autre fois, on aura un peu le temps, mais je trouve que ce qu'on entend sur Haaland, et je le mets en parallèle avec ce qu'on entend sur Mbappé, ça montre un degré d'exigence qu'on a pour les attaquants qui me paraît assez anormal aujourd'hui dans l'histoire du football. On dit à Haaland, si on enlève ses buts, oui, d'accord, mais à ce moment-là,
on enlève pas ses buts.
Le gardien, si tu enlèves ses mains, il est moins bon.
Oui, oui.
Mbappé, si on enlève sa vitesse, oui, ok, mais c'est sa caractéristique principale. Mm-hmm. Donc pourquoi on lui enlèverait sa vitesse? C'est là-dessus qu'il joue, et il a raison de jouer là-dessus. Moi, je veux dire, vous prenez les 9 d'il y a quelques années, ils n'avaient pas tout non plus. Batistuta, c'est un joueur que j'adore, pour moi c'est un des meilleurs 9 de l'histoire, j'adore ce mec, mais il n'avait pas tout non plus. Crespo n'avait pas tout non plus.
Mais eux passent après
Messi. Non plus, on a eu ce débat avec Messi.
Ce que dit Johan est extraordinaire, parce que Batistuta, par rapport à Haaland, statistiquement parlant, n'existe pas.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire que Johan parlait d'exigence envers ces types d'attaquants, moi j'ai presque envie de dire, non, c'est pas de l'exigence, c'est de la bêtise.
Ouais.
Quel entraîneur au monde aujourd'hui ne voudrait pas le Norvégien dans son équipe? Enfin, peut-être que Roy Keane a envie d'être entraîneur, j'en sais rien. Mais ce que je vois, c'est qu'il est consultant.
Il a essayé, Polo, ça va marcher.
Ah ouais, je sais. Et puis là, ça a été fabuleux, non?
Ouais, ça a pas marché du tout. Ouais.
D'accord. Et les, je veux dire, enfin, je regarde là, City depuis qu'il est arrivé, 88 matchs, 81 buts. mais c'est même pas la sécurité sociale.
Oui, mais
oui,
mais
tu l'appelles.
En fait, quand on dit ça, on dit toujours oui, mais.
Mais en fait, avec les attaquants d'avant, on le disait pas, ça.
Tu as raison. C'est d'expliquer pourquoi il peut y avoir une petite défiance vis-à-vis d'Erling Haaland par rapport à son style, son côté robotique que Polo a
créé aussi. Oui, parce qu'il est pas très beau sur un terrain, donc
c'est une ode à l'inélégance quelque part, quoi. C'est quelque chose de moins romantique, peut-être, qu'un Batistuta à une époque, un Crespo.
C'est anachronique, mais regardons, avec le regard d'aujourd'hui, les attaquants du passé. Et vous allez en trouver des points à améliorer chez tous les attaquants.
Bien sûr. Sauf sur un.
Il a aussi le droit d'avoir une marge de progression, et Guardiola l'avait dit l'an dernier, il y a deux ans, mon cher Julien. J'aimerais qu'il participe un peu plus au jeu.
Et même s'il progresse pas,
pointe ça aussi.
Même s'il progresse pas, il mettra toujours ses balises de but, en fait.
Non, puis après, tu as commencé à l'évoquer, Nicolas, il passe après Messi et Ronaldo.
Oui.
Et là, en fait, c'est-à-dire que tout est brouillé, en fait.
Oui.
Tout est brouillé. C'est-à-dire que mettre 50 buts dans la saison, maintenant, c'est considéré comme normal.
En tout cas, c'est comme une excellence et pas comme une génie.
Non, mais là, aujourd'hui, notre critère, c'est Messi et Ronaldo qui mettaient 50 buts. Donc, on attend de la superstar, du superviseur d'une équipe qui marque des buts comme un malade.
Ils ont déréglé les
autres passages. Alors qu'avant, moi, je me souviens d'une déclaration qu'avait faite Boutragueño en disant, mais à mon époque, hein, il disait, voilà, années 90 plutôt, enfin, tu vois, années 80-90, dans cette période-là, le champion d'Espagne, le meilleur, le Pichichi, mettait 22, 23, 24 buts et c'était merveilleux dans une saison. Voilà, et on trouvait ça magnifique. Aujourd'hui, on a un degré d'exigence qui n'est pas normal, en fait. Oui. Par rapport à, parce qu'il y a eu pendant un moment deux joueurs qui étaient en dehors du football normal.
Bah, au-dessus de l'histoire.
Au-dessus de tout, voilà. Il y a une époque comme ça, mais, et donc, notamment chez les nouvelles générations, là aussi, le mal, tout le monde regarde les statistiques, et donc on va toujours fixer, oui, mais,
C'est comme chez les défenseurs. On va dire sur un gros match, ouais, il a fait une erreur. Puis s'il en refait une deuxième de la saison, ouais, il a fait quand même deux erreurs importantes. Mais si vous voulez, on va regarder les matchs de Nesta, de Maldini, de Cannavaro, de toutes les références du football.
Ou de Ramos.
Vous allez en trouver des erreurs aussi.
Mais bien sûr,
on a un degré d'exigence que je trouve absolument dingue sur tous les joueurs.
Raison.
Parce qu'on est hyper passionné, sans doute. Mais en fait, c'est juste pas possible d'être excellent 60 matchs par an, ne jamais faire une erreur si t'es défenseur, ne jamais rater des occasions.
C'est un très bon thème. C'est un peu plus exigeant avec les footballeurs aujourd'hui, le très haut niveau.
S'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de football. C'est Angel Capa, l'éternel adjoint de Valdano, qui dit toujours, le football, c'est profiter de l'erreur de l'adversaire.
Ben oui.
Donc s'il n'y a pas d'erreur,
que tu peux provoquer,
que tu peux provoquer.
Le sujet.
Oui, mais tu peux provoquer une erreur. Après, tu ne sais pas, pas en profiter. Donc s'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de football.
Voilà pour le début de Génération After Drôle de Dame. C'est l'heure de la première minute de la soirée. Elle est italienne, mon cher Johan. On envoie la musique, Polo.
Dilli come un miracolo, comme un miracle, évidemment miracle en ce week-end de Pâques. Et vous l'avez sans doute remarqué, si vous avez cherché du football italien à la télé hier, eh ben il n'y en avait pas, puisque le dimanche de Pâques, on ne joue pas en Italie. La dernière fois qu'on a eu une journée complète le dimanche de Pâques, puisqu'à l'époque on jouait beaucoup le dimanche, et on passe samedi, dimanche, vendredi, samedi, dimanche, lundi comme aujourd'hui, c'était en 1978, en pleine année de plomb en Italie. Et depuis cette année-là, il y a eu deux fois où il y a eu un match le dimanche de Pâques, et ça fait un scandale pas possible en Italie. Une fois, c'était pour un Pérouse-Inter qui était lié à un match coincé entre deux matchs de Coupe d'Europe. Et pour l'Inter, c'était obligatoire de jouer le dimanche, sinon ils ne pouvaient pas le jouer. Ils avaient fait jouer ce match-là. Mais il faut savoir quand même, par exemple, que l'archevêque de Florence avait fait pression pour que ce match ne soit pas diffusé sur certaines radios. Et donc le Pérouse-Inter n'avait pas été diffusé. Ensuite, il y avait eu un match de l'Udinese au début des années 2010. Celui-là, je n'ai absolument pas compris ni trouvé d'explication à pourquoi ce match avait été placé là. Parce qu'il n'y avait pas de club de Coupe d'Europe, de grands clubs, etc. ou de contraintes liées particulièrement au calendrier. Mais en fait, pourquoi on ne joue pas le dimanche de Pâques en Italie? C'est évidemment l'influence du Vatican. Pourquoi dans les années 70, ça s'est arrêté? Parce qu'on est, je viens de le dire, dans les années de plomb, que l'Église a perdu une certaine autorité dans ce pays qu'est l'Italie, parce qu'on est au moment d'un très particulier en Italie où il y a une volonté de signer ce qu'on a appelé le compromis historique entre les chrétiens démocrates qui étaient à la tête du gouvernement italien et le parti communiste italien qui voulait rentrer dans le gouvernement, qui avait trouvé cette astuce de compromis historique pour essayer de se tailler une part du gâteau. Et l'Église voyait ça d'un très mauvais œil parce que le parti communiste italien était profondément anticlérical, évidemment.
Et l'Église s'est mise en panique et a décidé d'user de toutes ses influences possibles et imaginables dans tous les secteurs de l'Italie, tous les secteurs d'activité économique italien, pour faire pression sur la Fédération et la Ligue pour qu'on ne joue plus le dimanche de Pâques, pour qu'il y ait un retour à la tradition religieuse. Le dimanche de Pâques, c'est la messe en Italie et ensuite le repas très important avec des plats très importants, codifiés, identifiés. Et d'ailleurs, par exemple, aujourd'hui, c'est Pasquetta en Italie, c'est le lendemain de Pâques. Jour très important aussi, avec une grande tradition qui a lieu. On ne mange pas, non pas en famille autour d'une bonne table, mais on essaie d'aller pique-niquer ou de faire des barbecues, de ce genre de choses-là, ensemble, et de prendre ce temps-là de repos, de réflexion, etc. Donc, pourquoi on ne joue pas à Pâques, le dimanche de Pâques en Italie? C'est lié au Vatican, qui, dans les années 70, en pleine année de plomb, année d'attentats, en Italie, très difficile, a décidé de reprendre la main sur le cours de l'Italie.
Voilà, c'est la minute histoire religieuse, bien, football de Johan.
Il faut juste citer l'influence des Américains dans les années de plomb.
T'as raison.
Le Vatican ne fait pas tout seul.
Exactement. Quelques appuis, le Vatican, parfois.